Voilà, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui, non pas d'histoire, mais de prescription, de loi, de commandement. Vous connaissez le décalogue peut-être, mais vous ne le connaissez peut-être pas sous la forme dont je vais vous le présenter aujourd'hui. Nous avons déjà vu la semaine dernière qu'il y a deux versions en fait, du décalogue. C'est déjà quelque chose qui mérite explication, donc qui sont plus ou moins parallèles, mais qui ont quand même aussi des spécificités, notamment en ce qui concerne l'explication du commandement du sabbat, qui est très différent en Exode 20 et en Deutéronome 5, alors qu'en Exode 20, on renvoie à la création. En Deutéronome 5, en fait, on renvoie à la situation d'esclavage en Égypte. Et puis, dans les deux cas, en fait, c'est une sorte de position qui introduit une autre collection de lois, le code d'alliance qui suit le décalogue d'Exode 20, et ensuite le code deutéronomique, on en parlera dans la deuxième partie de ce cours. Et puis je vous ai dit aussi que les 10 paroles, ce n'est pas si évident que cela. Pourquoi 10 paroles ? En fait, si vous regardez dans le texte biblique, il n'y a que 3 textes dans toute la Bible qui parlent de 10 paroles. Autrement dit, simplement, les paroles que Yahvé avait dit pour Israël. Donc, en plus, les 10 paroles ne sont pas numérotées, ce qui explique que entre les juifs, les catholiques, les réformés, les anglicans, les luthériens, chacun a ses propres 10 paroles à lui. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas d'accord sur le comptage. On n'est pas d'accord sur le comptage. Donc, ça veut dire que c'est probablement une invention après coup. Donc, qu'au moment où on met par écrit, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le commandement ou le décalogue, on n'avait peut-être pas encore l'idée qu'il s'agit de 10. Le 10, probablement, c'est venu pour des raisons mnémotechniques, les dix doigts qui permettent facilement à apprendre par cœur. Donc c'est un moment où on voulait apparemment qu'on apprenait par cœur ce texte. Et ce qui est intéressant, si vous regardez ces 3 textes dont je viens vous parler, qui parlent des 10 paroles, vous avez à côté des 10 paroles encore une autre idée, à savoir que ces 10 paroles sont écrites sur 2 tables. Bon, si vous prenez une tablette assez grande, vous pouvez faire tenir les 10 paroles sur une seule table. Ou alors, Yahvé s'est mal écrit et écrit très manière un peu grand, quoi. Donc ça veut dire, en fait, que cette idée des 2 tables qui donne après cette idée que il y a 2 parties du décalogue, ça on le trouve déjà chez Philon qui dit voilà, la première partie c'est la partie qui concerne les lois se référant à Yahvé et la deuxième partie les lois qui se réfèrent seulement à des comportements entre les hommes. On pense que ça vient des 2 tables. C'est une interprétation, mais probablement on y reviendra là-dessus. Les 2 tables, c'est plutôt une coutume assyrienne ou mésopotamienne, parce qu'on l'a déjà avant, à savoir quand vous faites un contrat, vous faites toujours une copie, comme on le fait aujourd'hui. Il vaut mieux avoir une copie parce qu'on ne sait pas ce qui arrive à l'original. Et donc une copie qui probablement était destinée en fait, à être placée, affichée publiquement. Et c'est seulement ensuite qu'on a considérer que ces 2 tables, en fait, sont 2 parties du décalogue. Donc, d'où l'idée, en effet, que le décalogue a une sorte de structure en 2 parties. La première partie, une sorte d'axe vertical où il est question de la relation entre l'homme et Yahvé. Au début, je voulais mettre un peu plus politiquement correct entre l'être humain et Yahvé, mais ce n'est pas vrai. C'est bien entre l'homme, mâle, et Yahvé. Parce que le décalogue, alors les femmes peuvent être contentes, parce que le décalogue s'adresse qu'à des hommes, en fait. Donc le destinataire du décalogue, ce sont les anachim, les hommes libres, hein, à qui, en fait, on demande un certain nombre des règles à suivre. Et on va le voir tout à l'heure quand on parlera de l'adultère, on verra le statut de la femme. Donc le décalogue, vraiment, s'adresse à des hommes, d'abord dans sa relation avec Yahvé, et ensuite, dans la deuxième partie, en ce qui concerne la relation entre un homme et son prochain. Et d'ailleurs, on peut constater ça aussi même au niveau de la structure, parce que le décalogue s'ouvre par « c'est moi Yahvé, Anochi Yahvé », et le dernier mot du décalogue, c'est « ton prochain, Re'echa ». Donc il y a vraiment cet encadrement, au début c'est « moi Yahvé » et à la fin « ton prochain ». C'est un peu les deux pôles autour desquels tourne le décalogue. Mais on peut aussi y voir, comme d'autres commentateurs, tout ça, c'est évidemment des explications après coup, parce que dans le texte biblique, ce n'est pas marqué, on peut aussi y voir une sorte de structure en trois parties. Parce que les premiers commandements, qui concernent en fait l'interdiction d'image, l'interdiction d'utiliser le nom de Yahvé pour des choses futiles, ben ça ne concerne que Yahvé. Et ensuite, vous avez au milieu des commandements comme le Shabbat et la vénération des parents, où il est à la fois question de Yahvé hein, et des êtres humains qui sont dans une relation hiérarchique avec le destinataire, soit ce sont les parents ou soit ce sont les esclaves, les servants, etc. Et finalement, troisième partie, les comportements à l'égard du prochain. Et finalement, le décalogue construit aussi une opposition temporelle. Il commence par « c'est moi Yahvé qui t'ai fait sortir », donc rappel du passé, hein, « qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Et ensuite, bah, les actions ou les comportements qui sont demandés, c'est des comportements qui concernent le présent, voire l'avenir. Donc c'est une sorte de contrat. Le décalogue, c'est un contrat entre Yahvé et les hommes mâles de Juda ou d'Israël. Maintenant, d'où est-ce qu'il vient le décalogue? Qui a écrit le décalogue? Dans la Bible, c'est Yahvé qui l'a écrit. Si on pose une question un peu plus historique, on peut dire que très souvent, on a pensé que le décalogue était un des textes les plus anciens de la Bible. Jusqu'au milieu des années 1950-60, c'est une théorie qu'on pouvait trouver très très souvent, où on a pensé qu'à l'origine, en fait, le décalogue, c'est une sorte de série de courts commandements très brefs, apodictiques, donc du style « tu ne prosterneras pas devant un dieu, tu te prosterneras pas devant un dieu étranger, tu ne feras pas d'image, tu n'élèveras pas mon nom pour la futilité, tu profaneras pas mes sabbats, etc. » Et ensuite, et ça, c'est la question qui rend cette théorie déjà un peu caduque. La question, c'est si on avait une magnifique liste comme ça, pourquoi après est-ce qu'on l'aura trafiquée de sorte que maintenant, on a des choses quand même très différentes dans la première partie et ces commandements très courts dans la deuxième. Donc, je pense qu'on ne peut pas reconstruire un décalogue primitif. Surtout un décalogue, 10. Par contre, ce qu'on peut dire, il existe certainement des précurseurs à partir desquels on a construit le décalogue. Par exemple, si vous prenez un texte comme Jérémie 7, là c'est un discours que le prophète tient au temple où en fait il accuse son auditoire de penser une fois ils sont dans le temple, tout va bien. Alors qu'ils commettent toutes sortes d'actes qui sont bannis, honnis par Yahvé. Et justement, la question que le prophète pose, est-ce que vous pouvez venir ici dans le temple et après voler, commettre des meurtres, commettre l'adultère, faire des faux serments, suivre d'autres dieux? Donc là, vous avez déjà un certain nombre de comportements critiqués qu'on va retrouver dans le décalogue. Ou encore, dans le livre d'Osée, pareil, où il accuse en fait c'est destinataire d'un comportement qui n'est pas loyal par rapport à Yahvé. Il n'y a ni loyauté, ni fidélité, ni connaissance de Dieu dans le pays. Par contre, il y a meurtre, vol, adultère. De nouveau, une liste en fait, des choses qui sont interdites. Et d'une certaine manière, c'est à partir de cela que se construit le décalogue, parce que des catalogues énumérant des choses à faire ou à ne pas faire, c'est presque un moyen pédagogique universel. Alors aujourd'hui, les pédagogues vont dire que ce n'est peut-être pas la bonne pédagogie, mais c'est comme ça qu'on a fait pendant des millénaires presque. Donc il y a des listes de comportements à suivre ou à ne pas suivre. Je vous donne un exemple qu'on cite aussi souvent en lien avec le décalogue, c'est le livre des morts égyptiens. Les livres des morts égyptiens, notamment au chapitre 125, vous avez un grand texte qu'on appelle la confession négative. Qu'est-ce que c'est ? C'est le mort qui est amené dans la salle des deux ma'at, des deux garants de l'ordre de la société et du monde. Donc c'est en fait le tribunal d'Osiris. Et là, en fait, il y a toute une liste que le mort doit réciter pour justement être considéré après comme ayant en fait passé l'examen. Et dans cette longue liste, je vous ai mis quelques extraits qui peuvent tout à fait se comparer au décalogue. Par exemple, je n'ai pas blasphémé Dieu, tu n'utiliseras pas le nom de Yahvé, je n'ai pas tué à plusieurs reprises, tu ne commettras pas de meurtre, je n'ai pas volé les galettes, je n'ai pas brigandé, je n'ai pas volé les biens d'un dieu, etc. Donc tu ne voleras pas. Je n'ai pas été cupide, tu ne convoiteras pas. Je n'ai pas dit des mensonges, tu ne seras pas un faux témoin. Et je n'ai pas couché avec une femme mariée. Tu ne commettras pas d'adultère. Et ça, c'est intéressant pour le Nouveau Testament. Donc il y a aussi une affirmation positive. J'ai donné du pain à l'affamé, de l'eau à l'assoiffé, des vêtements à celui qui est nu. Et cela, évidemment, vous rappelle, si vous connaissez le Nouveau Testament, le sein du tribunal aussi. Ça, c'est le jugement dernier, en Matthieu 25. Bon, ça, c'est un autre sujet, on n'en parlera pas maintenant, mais qui est certainement influencé aussi de ce texte. Donc, sans l'Égypte, il n'y aura pas de Bible, comme sans la Syrie, il n'y aura pas de Bible. Donc, ce n'est pas nécessaire pour le décalogue d'y voir un lien direct, mais ça vous montre en fait qu'il y a cette coutume, en fait, d'énumérer, de cataloguer des comportements à prescrire ou des comportements à avoir. Et le décalogue, c'est ça. Maintenant, la question, évidemment, qu'on doit se poser, et c'est là que je vais vous présenter une théorie un peu nouvelle, je pense, c'est la question des auteurs du décalogue et aussi de l'origine, ou de la question... Lequel des deux est le plus ancien ? Donc il y a Exode 20 et Deutéronome 5. Je ne sais pas si vous avez lu les deux. Sans ça, faites-le. Alors lequel des deux est le plus ancien ? Ce n'est pas évident comme question. Très souvent, en fait, on dit c'est Exode 20. Exode 20. Puisque c'est un texte que vous comparez qui est un peu plus bref que celui de Deutéronome 5, avec l'idée que le texte bref est plus ancien que le texte un peu plus élaboré et plus récent, puisque si vous prenez par exemple le commandement « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours s'allongent sur le sol que Yahvé ton Dieu te donne » dans l'Exode, en Deutéronome 5, vous trouvez « Honore ton père et ta mère comme te l'a ordonné Yahvé, ton Dieu. » Alors du coup, on se dit « comme te l'a ordonné », c'est une sorte de renvoi à un texte antérieur qui se trouve justement en Exode 20. Bien, c'est possible, mais ça ne peut pas être un texte très ancien. Pourquoi ? Parce que après, on arrive au sabbat. Et le sabbat est expliqué par le fait que Yahvé se reposait le septième jour. Et ça renvoie clairement au texte de Genèse 1, et presque tout le monde est d'accord que ça, c'est un texte du milieu sacerdotal, le fameux P, le prêtre, qu'on peut mettre pas avant le VIe siècle. Donc, du coup, ça pose un problème. Alors, donc, il faut dire, oui, mais alors, la motivation du sabbat, on l'a rajoutée après coup. On peut dire ça. Mais c'est typiquement ce qu'on peut appeler un argument circulaire. Si vous savez ce que vous cherchez, vous le trouverez plus facilement. Donc, si je veux un décalogue plus ancien, j'élimine ce qui ne me plaît pas. Donc, du coup, je pense qu'il faut renoncer à « va derrière Exode 20 » d'un décalogue ancien. Il n'est pas plus ancien que le texte sacerdotal. Il présuppose même le texte sacerdotal. Alors, quitte de Deutéronome 5. Certains disent, mais c'est peut-être le décalogue qui n'est pas ancien, mais qui sera peut-être une création des deutéronomistes. Les deutéronomistes qui ont écrit le Deutéronome, les livres qui suivent, et on observe, par exemple Lofink et d'autres, que les commandements du décalogue correspondent à la structure du code de loi en Deutéronome 12 à 25. On aura la vénération exclusive de Yahvé qui correspondra au chapitre 12 à la centralisation du culte. On aura l'interdit d'utiliser le nom de Yahvé pour des choses futiles qui correspondrait à la loi sur les faux prophètes et l'idolâtrie. On aura ensuite le sabbat qui correspondrait à la législation sur les fêtes. On aura le commandement d'honorer les parents qui correspondrait, alors là ça devient un peu quand même, un peu, oui, c'est interprété, qui correspondrait à la loi sur toutes les autorités, sur les juges, sur les prophètes, sur les rois, etc. Et ainsi de suite, l'interdiction de tuer correspondrait à des lois sur les villes de refuge, des lois sur la guerre, etc. Donc l'idée, c'est que le décalogue serait une sorte de table de matière du code deutéronomique. Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement juste non plus, parce que parfois, c'est quand même un peu, très tiré pour que ça marche. Par exemple, de dire que les parents, c'est toutes les autorités. Ben, Luther l'a dit, mais bon, Luther a aussi interprété. Donc, je pense qu'il faut, se méfier. Et puis, l'autre problème de cette idée que le décalogue est un texte deutéronomiste, c'est simplement le vocabulaire qui se trouve dans le décalogue, à commencer par le sabbat. Le sabbat, en fait, n'est pas une préoccupation du deutéronome ni de l'école deutéronomiste. Le sabbat n'est mentionné que deux fois dans l'histoire deutéronomiste, dans les livres des rois, et là on voit encore qu'il est considéré comme une fête mensuelle. On dit « veux-tu aller chez lui aujourd'hui ?» C'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat. Donc le sabbat, il est mentionné dans le Code de sainteté, dans les livres de Néhémie, des Chroniques surtout, et dans le livre d'Ézéchiel. Ce n'est pas deutéronomiste. La même chose, ben, je ne vais pas aller dans le détail, pour cette présentation, c'est moi le Seigneur, Ani ou Anochi Yahvé. Très très peu dans le Deutéronome, très souvent chez Ézéchiel, dans le Code de sainteté, les textes sacerdotaux. Les textes, des mots comme l'image sculptée, Pesel, Temuna, absents dans le Deutéronome, à part du décalogue, et fréquents dans les textes d'origine sacerdotale. Donc, on ne peut pas dire que le décalogue, c'est une invention deutéronomiste. Donc, si c'est ni sacerdotal ni deutéronomiste, et si on ne sait pas lequel est le plus âgé, le plus ancien, le plus vieux, ben je vais vous proposer une autre théorie. Je vais vous dire que les deux décalogues sont l'œuvre du même auteur. Oui, pourquoi ? Ben, vous allez le voir. C'est l'œuvre du même auteur qui les a insérés dans les deux endroits où ils se trouvent. Pourquoi ? Pour renforcer la cohérence du Pentateuque. Vous savez, le Pentateuque, bah, il se compose des codes différents, des lois différentes. Bah, au début, bah, où on a mis ça par écrit, il n'y avait pas de problème. Mais au moment où on devait mettre tout cela dans un seul ensemble qui devient la Torah, Il faut quand même essayer de montrer que toute cette diversité qu'on a à l'intérieur de ce texte, il y a diversité, mais en même temps, il y a cohérence. Et ce qu'on fait avec les deux décalogues, c'est qu'on les place, comme je vous l'ai déjà montré, devant le Code d'Alliance, en renvoyant à la Genèse, on le place devant le Code deutéronomique, en renvoyant à l'Exode, et on fait une sorte de lien avec l'ensemble des traditions législatives et narratives. Donc, ma théorie, c'est que le décalogue, ce n'est pas un texte ancien, c'est un des derniers textes du Pentateuque. C'est une sorte de réflexion sur ce qui, comme on le voit après, plus tard, parce que c'est le début de cette réflexion, comment peut-on résumer toute la loi ? Ça, c'est une discussion qu'on trouve encore dans le Nouveau Testament. C'est une discussion rabbinique. En quoi la loi se résume ? Parce que 613 commandements, ça fait beaucoup, donc on ne va pas tous les avoir dans la tête. Est-ce qu'on peut les résumer ? Et le décalogue, c'est une de ces tentatives. Et on voit très bien, en fait, que ces deux textes, avec les différences qu'ils ont, évidemment, ils ont les mêmes lois, et là où ils sont, les différences font sens. Dans l'Exode, c'est normal qu'on renvoie à la création. Dans le Deutéronome, c'est normal qu'on renvoie à l'Exode. Donc c'est comme une sorte de... Si vous dites deux fois les mêmes choses au début et à la fin, ça renforce cette idée d'unité, de cohérence, malgré la différence. Donc, la théorie que je vous propose, c'est que les décalogues ne sont pas un écrit plus tôt que l'autre, ils ont écrit en même temps, insérés là où ils se trouvent pour souligner la cohérence de la Torah qui est en train de se constituer. Et on peut aller encore plus loin, on peut, disons, émettre une hypothèse sur les auteurs de ce décalogue, c'est ce qu'on peut appeler l'école de sainteté. Donc c'est les gens qui ont aussi écrit Lévitique 17 à 26, qui a un peu la même préoccupation, à savoir faire un lien entre le langage, la théologie deutéronomiste et la théologie sacerdotale. Et je vous donne juste quelques exemples qui sont typiques pour ce que vous trouvez dans le code de sainteté. Par exemple, l'importance de la racine avad, être esclave, servir. On le trouve 5 fois en Exode 20 et 7 fois dans le décalogue de Deutéronome 5, avec cette idée qu'il y a un changement de statut. Les Israélites étaient esclaves en Égypte, Yahvé les a fait sortir d'Égypte et ils sont devenus esclaves de Yahvé ou serviteurs de Yahvé. Donc il y a un changement de statut. Et ça, c'est typiquement ce que dit le décalogue. Je vous ai fait sortir d'Égypte, maintenant c'est à moi que vous devez allégeance. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans le code de sainteté. Car pour moi, les fils d'Israël sont des serviteurs, sont des esclaves. Avadim. Ils sont des esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, c'est moi le Seigneur. C'est exactement ce que vous avez au début du décalogue. Donc, le décalogue qui demande une loyauté vis-à-vis du Yahvé et vis-à-vis du prochain, c'est la même préoccupation que vous avez dans le code de sainteté. Je vais vous montrer encore un autre texte que vous connaissez peut-être, puisqu'il se termine par ce fameux commandement de l'amour du prochain, qui n'est pas une invention du Nouveau Testament, comme on le pense parfois, non, qui se trouve en Lévitique 19. Mais justement, et c'est ça qui est magnifique, justement là où on a beaucoup d'allusions au décalogue. Si vous prenez le chapitre 19, c'est comme dans le décalogue, c'est moi Yahvé, votre Dieu, et après vous avez, je vous laisse lire, vous avez des prescriptions qui rappellent le décalogue, craindre sa mère, son père, observer les sabbats, ne pas fabriquer des dieux, ne pas voler, ne pas prononcer des faux serments. C'est exactement des préoccupations du décalogue en Lévitique 19. Et tout à la fin, c'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même, avec la même expression que nous avons déjà dans le décalogue. C'est-à-dire, les auteurs du décalogue, ce sont ceux qui réfléchissent à la manière de résumer la loi de résumer les différents codes de loi qui se trouvent à l'intérieur de la Torah, qui le structure en deux parties par rapport à Yahvé et par rapport au prochain, ce qui ensuite permet de dire ben, il faut aimer Yahvé et ton prochain comme toi-même, avec l'idée que l'amour ici c'est un acte de loyauté. Mais donc, si vous voulez, dans le Nouveau Testament, Jésus n'a rien inventé. Tout cela se trouve déjà dans le décalogue, d'une certaine manière, puisque vous avez les deux parties, respect vis-à-vis de Yahvé et respect vis-à-vis du prochain, et qui est ensuite encore détaillé ici en Lévitique 19. Donc, ça veut dire que les décalogues, les deux décalogues, sont une création de l'époque perse, au moment où se constitue la Torah, et ils font partie de ce qu'on peut appeler le mortier de la Torah, c'est-à-dire ce qui fait l'unité dans la diversité. Une quête que le judaïsme va poursuivre et qui va en effet se baser surtout sur des textes comme le Décalogue ou un texte comme Lévitique 19. Regardons vite les commandements. Vous voyez comment on peut dire c'est une sorte de condensé sur des condensés des thèmes et des exigences sur lesquelles va se baser le judaïsme naissant. Le décalogue, ça, c'est aussi en quelque sorte, ça fait partie aussi de la naissance du judaïsme. Ce n'est pas des trucs archaïques, hein, c'est des textes qui en fait permettent la naissance du judaïsme. Alors on va les commenter brièvement. Donc, Yahvé, le Dieu qui fait sortir du pays d'Égypte, ben, ça, il n'y a pas meilleure introduction. C'est d'abord quelque chose qui est acceptable et pour le milieu sacerdotaux et pour le milieu deutéronome qui sont d'accord pour dire que la sortie d'Égypte est le point central dans la construction narrative de la Torah. Nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises. Ensuite, l'exclusivité du culte yahviste et l'interdiction des représentations du divin. Donc là, on peut très bien voir comment, en fait, comment l'interdiction d'image de Yahvé a eu une préhistoire. Ce commandement, tu n'auras pas d'autre dieu contre ma face, bah, elle se poursuit en fait à l'origine au verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas, car c'est moi Yahvé ton Dieu. Ça, c'est le début de ce commandement qui, en fait, rappelle et peut-être est né cette idée à l'époque de Josias. Vous vous souvenez, à l'époque de Josias, on a centralisé le culte de Yahvé. C'est moi Yahvé, tu n'auras pas d'autre Dieu à ma face. C'est-à-dire, n'introduis surtout pas d'autres dieux dans le sanctuaire, mais pas des statues d'autres dieux vis-à-vis de moi. Et ensuite, au moment où on est en train de construire le deuxième temple, ça ne suffit pas, puisqu'il va falloir dire maintenant, tu ne te feras pas de pesel, c'est-à-dire d'image sculptée. Nous avons vu dans des cours précédents que dans le premier temple, il y avait une image de Yahvé. Alors que dans le deuxième temple, justement, c'est pour cela que ce commandement va se poursuivre ainsi. Nous, tu ne feras pas d'image sculptée. Donc, Yahvé, il faut le vénérer de manière exclusive, mais il faut aussi le vénérer sans statue. Ce qui va devenir justement un des marqueurs distinctifs du judaïsme par rapport à toutes les autres religions. Les Grecs, les Romains vont rien comprendre à un temple où il n'y a rien dans le sein de saint. On a plein d'histoires où justement tel empereur entre dans le temple et dit « mais il n'y a rien dans ce temple ». Et c'est vrai, à quoi ça sert alors? Et donc ensuite, troisième relecture, une sorte d'interdiction générale de toute représentation qui va devenir aussi, en fait, un point très important pour le judaïsme, parce que le judaïsme, un peu comme dans dans le protestantisme et une sorte de méfiance par rapport à toute représentation, reprise d'ailleurs aussi par l'islam. Qui d'abord, je pense, c'était surtout des représentations de divinités en toutes sortes de formes, anthropomorphes, théropomorphes, etc., mais qui ont ensuite lu, en fait, comme une interdiction générale de toute image. Tu ne te feras pas d'image. Mais donc là, vous voyez que ces commandements, ils ont aussi souvent des préhistoires. Ils n'ont pas inventé d'un seul coup. Mais là, on voit très bien. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait central, fondamental pour le judaïsme. Cette idée de ne pas pouvoir se faire d'image de Dieu. Ça, c'est aussi une révolution théologique, comme sera, comme la Torah aussi sera une révolution d'une certaine manière, hein, qui se, en fait, va se substituer au temple, aux politiques, aux rois. Donc, ça commence déjà ici avec un Dieu qu'on peut pas représenter. Et ça va se combiner après avec l'idée de pas utiliser le nom de ce Dieu, je reviendrai, mais je voudrais juste encore vous dire quelques mots sur une expression qui a aussi souvent un peu intrigué les gens, car c'est moi, Yahvé ton Dieu, un El jaloux, poursuivant la faute des pères jusqu'à la troisième, quatrième génération, et puis voilà. Alors pourquoi Yahvé est un Dieu jaloux, et surtout un El jaloux? Parce qu'ici, on ne dit pas Elohim, on dit en effet El, expression qu'on trouve encore dans d'autres textes, pas très souvent, dans des textes plutôt récents, un texte qui dépend du Décalogue, et deux fois dans le livre du Deutéronome, et toujours avec l'interdiction de suivre d'autres dieux. Le El jaloux, c'est celui qui ne supporte pas que Israël suit d'autres dieux, et du coup on comprend aussi l'utilisation de cet adjectif, kana. C'est vraiment la jalousie, donc il n'y a pas d'autre signification. La jalousie, comme on le trouve notamment dans des contextes de couple. Un mari qui est jaloux parce qu'il soupçonne sa femme d'avoir couché avec quelqu'un d'autre. Comme on l'a, par exemple, au nombre 5, on a cette idée qu'il y a un esprit de jalousie qui va saisir l'homme. Et Yahvé, en fait, est décrit de la même manière. Parce que vous avez tous ces textes dans les prophètes, notamment, où la relation entre Yahvé et Israël est décrite comme la relation entre un homme et sa femme. Et Yahvé est jaloux par rapport à Israël, donc ça renvoie d'une certaine manière au premier commandement, il n'y aura pas d'autre Dieu face à moi, car je suis un Dieu jaloux, qui ne supporte pas des infidélités. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris « El » ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas simplement dit « Elohim Kana » ? El, bah, vous vous souvenez, El, à l'origine, c'est en fait le dieu chef des panthéons cananéens, un peu le Zeus des Phéniciens, Ougarit, etc. Et après, ça devient, comme Zeus devient Deus, El, ça devient aussi simplement Dieu. Alors, soit on dit que El est déjà devenu une sorte de nom générique, où il y a peut-être derrière encore certains jeux de mots, parce que le El de Ougarit, il est souvent aussi appelé le El Kone, le El créateur du ciel et de la terre. Et Kone, ou peut-être Kanu, parce qu'on ne sait pas comment l'ougaritique s'est prononcé, El Kanu, bah, c'est un peu comme El Kana. Donc peut-être, en effet, on reprend un titre ancien. On l'a vu aussi avec le El Rofé, le El Guérisseur en Exode 15. Ici, nous avons peut-être quelque chose de comparable avec une allusion à un autre titre, à un ancien titre de El qui est redéfini. Le El Créateur devient le El Jaloux par rapport à l'exigence d'être vénéré d'une manière exclusive. Et donc, en même temps, il y a une sorte de rhétorique qui oppose ceux qui haïssent et ceux qui aiment, donc ce Dieu, qui rappelle également le contexte du mariage, parce que dans les textes qui parlent du divorce, on dit si un homme haït sa femme, mais haïr, c'est même pas tellement un terme sentimental, c'est simplement s'il trouve que la femme, elle fait plus l'affaire, si ça va pas. Et puis voilà. Donc, mais c'est cette opposition en fait d'une relation et puis d'une relation dont on se lasse d'une certaine manière. Donc ça rappelle de nouveau ce contexte, soit du mariage ou aussi, et les deux choses sont souvent un peu liées, des traités de vassalité. Parce que là, vous avez la même terminologie, aimer pour être loyal au grand roi, haïr pour justement se détourner du grand roi. Donc, le fait que Yahvé est caractérisé comme El Jaloux ici, bah, c'est tout à fait, disons, logique par rapport à l'exigence du premier commandement. Maintenant, cette théologie du nom de Yahvé. Tu n'utiliseras pas le nom de Yahvé pour des choses futiles, vaines, etc. D'abord, il faut mentionner qu'on parle du nom de Yahvé. Le nom, ça va devenir quelque chose qui va se substituer, en fait, à Yahvé. Parce que dans les textes anciens, c'est Yahvé qui habite dans le sanctuaire. Et puis dans le texte comme Deutéronome 12, comme 1 roi 8, lorsque Salomon inaugure le temple, il va dire non, Yahvé, il habite au ciel, c'est son nom, en fait, qui est présent dans le sanctuaire. Donc il y a déjà une sorte de mouvement vers une certaine transcendance, c'est peut-être pas tout à fait le terme, mais de dire dans le temple, c'est pas Yahvé, c'est son nom qu'il faut invoquer. Mais du coup, il y a sans doute aussi eu des spéculations autour du nom. Nous savons qu'il y a eu des textes magiques où, en invoquant le nom de Yahou, 3, 4 fois, ou même 10 fois, Yahou, 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 ben on pense que voilà, on peut manipuler et obtenir des choses. Peut-être, et ça c'est une interprétation, peut-être c'est justement contre des telles utilisations qu'on veut mettre en garde dans ce commandement. Mais il y a peut-être aussi de manière plus générale déjà une sorte de préparation de ce tabou qui devient aussi fondamental après pour le judaïsme, de ne pas prononcer le nom de Yahvé. Le nom de Yahvé, ben, il ne faut pas l'utiliser à la légère, et ensuite il n'y a qu'un pas pour dire qu'il ne faut pas le prononcer du tout. Ce qui est tout à fait compréhensible au moment où vous passez vers le monothéisme, votre Dieu qui a un nom propre, qui le distingue des autres dieux, ce nom propre, il n'a plus besoin d'être d'une certaine manière. Et il faut justement se défaire de cette idée, c'est en connaissant le nom de quelqu'un, on peut l'utiliser, on peut l'appeler, on peut le mettre à son service, et c'est ainsi que ce commandement du nom qu'il ne faut pas utiliser à la légère donne aussi l'origine, le fondement théologique à l'interdiction même de prononcer le nom divin. Donc vous voyez, ce que je vous disais au début, ça se confirme un peu, à savoir que tous ces commandements, au moins dans la première partie, sont des commandements fondamentaux qui vont caractériser le judaïsme tel qu'il va se mettre en place durant l'époque perse et après, à l'époque hellénistique. Le sabbat, bah, on a déjà parlé du sabbat, donc je ne vais pas aller dans le détail, mais qui devient en effet également fondamental. Nous avons vu déjà que l'idée du sabbat comme étant le septième jour est une invention dès l'époque perse. Avant, le sabbat, c'est une fête mensuelle, la nouvelle ou la pleine lune, selon. Et il y a une redéfinition qui se fait dans l'histoire de la création en Genèse 1, où le sabbat remplace d'une certaine manière le temple. Le Dieu créateur, il n'a pas tout de suite le temple comme le Marduk ou Baal. Il a d'abord le Shabbat. Et le fait que le Décalogue explique de deux manières différentes le Shabbat, soit en renvoyant à la Genèse, soit en renvoyant à la situation en Égypte, montre bien qu'il y a quelque chose de nouveau ici qu'il faut expliquer. Donc, il y a une nouveauté qui est à expliquer. Et évidemment, ce que fait ce commandement du sabbat, c'est bien sûr aussi de mettre en place une mobilité. Parce que le sabbat, ben, vous passez en fait d'un lieu sacré vers un temps sacré. Donc vous n'êtes pas lié à un temple, à un sanctuaire, à un pays précis. Le sabbat, c'est quelque chose qui vous permet, qu'on peut célébrer un peu partout. Et finalement, encore le commandement d'honorer les parents. On se dit que c'est quelque chose qui va de soi dans des sociétés antiques, mais là aussi on voit qu'il y a quand même une certaine insistance. Et il est possible en fait que ce commandement est formulé pour remplacer une autre coutume très populaire dans les sociétés proche-orientales, à savoir le culte des parents, mais des parents défunts, des ancêtres. Il y a plusieurs interdictions dans le Pentateuque où il ne faut pas donner à boire, à manger aux morts, où il ne faut pas justement faire un certain nombre de rituels pour les morts, qui évidemment, rituels qui sont considérés ensuite comme étant contraires au culte de Yahvé. Et on peut dire que la tentative en fait d'éradiquer ce culte des morts a pu motiver en fait le commandement de s'occuper des parents lors de leur vivant, avec une racine honorée, kavet, qui est en fait la même racine qu'on utilise pour la gloire de Yahvé, kavot, et donc un mot très, très fort, avec l'idée afin que ces jours se prolongent ici sur la terre, donc c'est-à-dire on détourne d'une certaine manière ou on change le regard sur la vie avant la mort. Donc, t'occupe pas. De nouveau, quand Jésus dit « Laisse les morts enterrer les morts », vous l'avez déjà ici, d'une certaine manière, n'est-ce pas ? T'occupe-toi de tes parents vivants. Honore tes parents. Donc, si on regarde tous les commandements en fait de la première partie du Décalogue, on voit que tous ces commandements, en fait, ne présupposent pas la nécessité d'habiter dans le pays. C'est tous des commandements que vous pouvez utiliser, et disons pas utiliser, que vous pouvez en fait accomplir partout, que vous soyez à Babylone, en Égypte, dans le pays, en Grèce ou ailleurs. Donc, en effet, ils sont valables et applicables aussi bien en diaspora que si on est dans le pays. Donc, la première partie, je pense, on peut en effet dire que la première partie du Décalogue, c'est un peu les piliers sur lesquels le judaïsme va se construire. Après, la deuxième partie, c'est des interdits, en fait, qui n'ont pas besoin de motivation parce qu'ils vont tellement de soi qu'on n'a pas besoin de les expliquer. En fait, c'est des interdits qu'on a sans doute choisis parce qu'on a considéré que ce sont des piliers de toute société. Ce qui est nouveau, c'est d'essayer de définir le comportement adéquat vis-à-vis de Yahvé qui devient le seul Dieu. Ce qui n'est pas du tout nouveau, c'est la manière dont il faut se comporter vis-à-vis du prochain. Mais seulement si l'hypothèse est juste que le Décalogue, c'est la première tentative, d'une certaine manière, à résumer la loi, on peut dire qu'on a choisi là un certain nombre de comportements qu'on a jugés comme étant les comportements les plus dangereux qui portent atteinte, en fait, à un fonctionnement de société. Et donc, c'est vraiment très, très, comment dire, très général, parce que le nom de Yahvé n'y apparaît pas, contrairement à la première partie. Donc on considère vraiment que ce sont en fait des prescriptions, des interdits qui sont valables pour tous et pour tout le monde, indépendamment même de la vénération de Yahvé. Donc on a vu que certains de ces interdits ont certainement déjà été regroupés, existaient peut-être déjà dans des petites listes comme dans le texte de Jérémie. Et puis je vais très très vite les commander. Tu ne commettras pas de meurtre, donc il ne faudrait pas vraiment traduire par tu ne tueras pas. On ne peut pas utiliser, bien que ça soit sympathique, on ne peut pas utiliser ce texte comme un argument contre la peine de mort. Ce n'est pas l'idée de ce commandement. ne me méprenez pas, je ne veux pas ici plaidoyer pour la peine de mort, au contraire. Mais je veux juste vous montrer comment, en fait, parfois, voilà, on doit essayer de comprendre le texte d'abord dans leur contexte. Ce n'est pas un plaidoyer contre la peine de mort, c'est un plaidoyer contre ce qu'on peut appeler le meurtre, c'est-à-dire contre des actions de violence intentionnelles qui donnent la mort à quelqu'un pour, voilà, pour des motivations basses et égoïstes, comme par exemple l'histoire, vous connaissez tous l'histoire de la vigne de Naboth, où Akab, avec son affreuse Jézabel, vont en effet s'emparer de la vigne de Naboth, et ils vont le faire mettre à mort dans un tribunal avec des faux témoins, autre lien qu'on peut faire avec le décalogue. Et ça, justement, on utilise cette racine ratsach. Tuer, mais dans le sens vraiment, on commet un meurtre avec des motifs vraiment égoïstes, ou ce texte de Nombre 25. Alors, l'adultère, je vous ai également déjà dit que, en fait, c'est pas l'adultère dans le sens où on l'entend aujourd'hui. L'adultère, c'est d'abord un délit de propriété. Bah oui, c'est comme ça. Parce que le mari, en hébreu et dans d'autres langues, c'est le Baal. Le Baal, c'est quoi? C'est le maître, c'est le propriétaire. Et la femme, c'est celle qui est possédée. Donc voilà, c'est... Du coup, vous comprenez qu'il y a un autre concept, en fait, d'adultère. C'est-à-dire, adultère existe dans le sens où un homme a des rapports sexuels avec une femme qui est déjà mariée à quelqu'un d'autre. Si un homme va voir une prostituée, Jacob le fait, ça ne pose pas de problème majeur. Si un homme couche avec une femme non mariée, il faut s'arranger. Soit il l'épouse. Donc, voilà. C'est juste pour vous rendre attentif au fait que nous sommes vraiment dans une autre situation, dans une autre société. Donc, l'adultère est en effet considéré comme une mise en danger de la stabilité de la société. C'est pour cela qu'elle est souvent très, très sévèrement sanctionnée. Comme le dit par exemple en Deutéronome 22, si on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, donc qui appartient à quelqu'un d'autre, les deux sont mis à mort. Alors, est-ce que ça s'est vraiment fait comme ça? C'est un autre débat qu'on peut avoir, mais c'est beaucoup plus radical que, par exemple, le code d'Hammurabi. Le code d'Hammurabi dit, bon, alors je ne sais pas comment ils peuvent survivre, mais on dit, les deux, on va les ligoter, on va les jeter à l'eau. Mais si après, le mari a pitié de sa femme, il dit, il faut la retirer, alors on l'a fait, et même l'homme est gracié par le roi. Donc là, il n'y a pas vraiment de progrès dans le texte biblique. Bon, alors, donc, je me résume, l'adultère, je ne vais pas parler maintenant de soupçon d'adultère, mais cette peur, en fait, d'être victime de l'adultère s'explique aussi, peut-être même en premier lieu, d'une certaine manière, par l'importance de la descendance. Voilà. Il faut être sûr que votre femme, quand elle accouche, que l'enfant qu'elle accouche, que c'est le vôtre. Il n'y a pas encore les tests de paternité. Donc, c'est pour cela que ça devient quelque chose de très, très obsessionnel, même, dans les textes de loi. Et c'est peut-être pour cela que le judaïsme, après, a trouvé, en effet, la réponse. Il a dit, peu importe l'homme, c'est la femme. Donc, on est juif, quand on a une maman juive, ça suffit. Et ça, je crois, c'est la bonne réponse, justement, à ces angoisses-là. Donc, on contourne, en fait, ce que dit le commandement sur l'adultère. Bon, tu ne voleras pas, il n'y a pas besoin d'en parler. Parfois, on dit, bon, Parfois on dit c'est simplement le rapt, mais pas seulement. Il y a un texte en effet qu'on utilise toujours qui, en fait, vole un homme. C'est le même racine ganave. Hein, donc certes, on dit à l'origine c'est que cela, mais il y a d'autres textes du vol, donc ce n'est pas du tout limité au rapt. Évidemment, ça c'est une atteinte à la propriété d'autrui. Et ensuite, très important évidemment aussi, le faux témoignage dans les tribunaux. Ça, ce n'est pas une invention moderne, hein, donc ça, il y a beaucoup de cas déjà dans l'Antiquité. Il y a beaucoup de prophètes aussi qui dénoncent ce type de comportement. Et on a de nouveau, en fait, l'exemple dans la fameuse histoire de la vigne de Nabod, où justement, on va commanditer des faux témoins. Donc, quelque chose aussi qui, évidemment, fragilise la société. Et finalement, tu ne convoiteras pas. Là, c'est un interdit qui ne vise pas des actes, mais des intentions, des désirs. Et d'une certaine manière, ça résume l'ensemble de la deuxième partie, puisque c'est un double commandement. Donc on a vu que la suite peut différer dans les manuscrits et entre Deutéronome 5 et Exode 20. Tu ne convoiteras pas soit la femme de ton prochain, et après la maison et les animaux de ton prochain, ou soit tu ne convoiteras pas la maison, et puis la femme et les animaux dans la suite. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en double. Comme en fait la première partie, c'est deux fois c'est moi Yahvé ton Dieu. Donc c'est une sorte d'encadrement. Et puis évidemment, d'une certaine manière, on peut dire que tous les interdits précédents, le meurtre, l'adultère, le vol, le faux témoignage, ben, ils peuvent tous être en effet compris comme pouvant être la conséquence de cette convoitise. Pourquoi est-ce qu'on va tuer? Pourquoi est-ce qu'on va voler? Pourquoi est-ce qu'on va se présenter comme un faux témoin? Parce qu'on convoite quelque chose, parce qu'on a des désirs illicites. Voilà. Bien. Le décalogue. Mais encore une dernière question pour le décalogue. Qui a prononcé le décalogue? Yahvé ou Moïse? Si vous prenez les textes, ben au début, on a l'impression, en effet, que c'est Yahvé. Hein? Parce qu'en Exode 20, donc, Yahvé dit, et après, seulement après qu'il a dit, le peuple dit, nous ne pouvons plus supporter cette proximité, Moïse devient notre intermédiaire. Et dans Deutéronome 5, on dit également, Yahvé a parlé avec vous face à face sur la montagne, du milieu du feu. Et à partir de cela, on a, surtout les théologiens, déjà les anciens, Philon d'Alexandrie, les rabbins, les chrétiens, on a toujours dit, ben là, le décalogue a un statut de loi immuable, mais si vous vous souvenez ce que je viens de vous dire, ben ce n'est pas tellement immuable, mais enfin, bon, on a toujours dit, voilà, c'est un statut immuable, contrairement à toutes les autres lois, hein, qu'on peut discuter, réinterpréter. Parce que, argument, ça a été dit directement par Yahvé aux oreilles du peuple. Donc on a en effet décrété que le décalogue aura un statut supérieur aux autres lois. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le problème, c'est déjà que c'est compliqué dans le Pentateuque même. Parce que ce n'est pas si clair que ça, que c'est vraiment Yahvé qui a prononcé le décalogue. Je vais vous le montrer. Si vous prenez Deutéronome 5, dans sa version première, on peut en effet dire « Yahvé a parlé avec vous face à face sur la montagne du milieu du feu pour dire les morts, ça introduit le discours, c'est moi Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, etc. » Mais si vous regardez bien, là, j'ai enlevé un verset. Si vous le rajoutez, ça donne « Yahvé a parlé avec vous face à face sur la montagne, du milieu du feu, et moi, donc Moïse, et moi, je me tenais alors entre Yahvé et vous, pour vous communiquer la parole de Yahvé. » car devant le feu, vous avez peur. Et pour dire. Donc, avec ce verset qui se trouve dans la Bible, avec ce verset-là, le décalogue ne vient plus de Yahvé directement. Il passe déjà par la médiation de Moïse. Donc ça veut dire qu'il y a eu une révision de ce texte pour dire, attention, le décalogue aussi a passé par la médiation mosaïque. Et en Exode 20, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu le chapitre 19 hein, qui décrit la théophanie du Sinaï. Et si vous vous souvenez, le chapitre 19 se termine avec un verset qui semble totalement incomplet. Parce que le dernier verset du chapitre 25, du chapitre 19, le verset 25, dit simplement « Moïse parla au peuple, il leur dit ». Bayomer allez. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Alors, si vous prenez 19-25 comme introduction au chapitre suivant, c'est plus un verset incomplet, puisqu'à ce moment-là, vous avez Moïse parla au peuple, il leur dit, parole de Moïse, voici, Dieu a dit toute cette parole. « Je suis Yahvé, ton Dieu », etc. Donc, si vous le lisez comme ça, le décalogue a été également transmis par Moïse au peuple et il n'a donc pas de statut différent que les autres lois du Pentateuque. On voit que c'est des versets qui sont un peu bancals, je suis d'accord. Mais ça montre en effet que probablement au début, pour les rédacteurs qui ont intégré le décalogue, qui voulaient montrer comment le décalogue en fait est une sorte de condensé de tout ce qui va venir, pour eux probablement, l'idée c'était bien cela qui a été retenu après par les rabbins, par les exégètes chrétiens, à savoir que le décalogue est communiqué par Yahvé, ça c'est assez clair. Mais dans la dernière révision de la Torah, on s'est dit « c'est pas possible ». C'est Moïse qui a donné toute la loi, donc il a aussi transmis le décalogue, et on a inséré le verset 19-25, comme on a inséré en Deutéronome 5 le verset 5. Et donc, du coup, on a brouillé d'une certaine manière les pistes, hein, discrètement, mais si on lit attentivement aujourd'hui, il faut voir quand même que Moïse est aussi introduit comme intermédiaire. Dans la communication du décalogue. Évidemment, comme le verset 25 se trouve tout à la fin du chapitre 19, on ne fait pas toujours le lien, mais vous vous souvenez, la séparation au chapitre, c'est quelque chose qui vient beaucoup plus tard. Donc il y a bien eu, à un moment donné, cette volonté de faire du décalogue une sorte de résumé, mais qui est un peu au même niveau que les autres lois. Donc si on vous dit, oui, le décalogue a une valeur supérieure, maintenant vous pouvez dire, c'est pas si clair que ça. C'est pas si clair que ça, parce que déjà, à l'intérieur du Pentateuque, il y a débat sur cette question. Et maintenant, je devrais, mais ce sera, à la semaine prochaine, ce sera difficile. Parce que je dois maintenant vous parler du Code d'Alliance. Il faut quand même aussi que je vous présente un peu des textes législatifs. Donc je vais juste vous faire quelques introductions et après on va en reprendre. Mais évidemment, il faut aussi que je vous parle du veau d'or. Non, on va y arriver, le veau d'or. Et puis après, il faut que je vous parle aussi de la construction du sanctuaire. Il y a des gens qui regardent déjà leur montre, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire ça maintenant. Mais juste quelques remarques encore par rapport au Code d'Alliance. Si je vous montre quelque chose d'important, on va peut-être parler aussi d'une loi qui est quand même curieuse, qui dit qu'il ne faut pas, faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Ces choses-là, voilà, vous le trouvez là. Je vais vous faire quelques commentaires là-dessus. Mais pour le moment, juste pour vous dire que Le code d'alliance fait partie de ces trois codes qui structurent en fait la Torah. Vous avez ce qu'on appelle le code d'alliance dont le nom vient simplement par le fait que dans le cadre narratif, Moïse écrit, dit-on, dans un livre, le livre de l'alliance, il proclame aux oreilles du peuple, et c'est ça ce qui a donné en fait le titre de code d'alliance, code de sainteté, qui se trouve dans le Lévitique, dans la deuxième partie du Lévitique, et le code deutéronomique. Donc, en fait, ces trois lois, qui ne sont pas toujours d'accord entre eux, sont des prescriptions différentes. En ce qui concerne le code d'alliance, il est communiqué en fait à Moïse par Yahvé dans la nuée. Donc ça, c'est vraiment intégré dans le contexte narratif, à savoir qu'après la communication du décalogue, Moïse monte à Yahvé. Yahvé dit à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Vous, vous avez vu que c'est du haut du ciel que je vous ai parlé. Et hop, commence en fait le code d'alliance. C'est un peu bizarre parce qu'il commence un peu sans une vraie introduction. Commence par « Vous ne me traiterez pas comme un dieu en argent ou en or. » Mais là, ça vous rappelle déjà quelque chose. Ça prépare le veau d'or. Donc vous voyez que le code d'alliance, ce n'est pas simplement un code qui serait totalement indépendant de son contexte narratif. Le premier commandement, c'est le commandement qui va être justement transgressé dans le récit du veau d'or. Et ensuite, vous avez une sorte d'encadrement cultuel qui concerne d'abord l'autel et les sacrifices. Et là aussi, quelque chose de très, très intéressant, puisqu'on va dire en tout lieu, dans n'importe quel lieu, où je ferai qu'on se rappelle de mon nom. De nouveau le nom. En tout lieu. Ben pourquoi c'est étonnant ? Parce que dans l'ouverture du code deutéronomique, on va dire le contraire. On va dire que c'est un seul lieu que Yahvé se choisira pour y faire invoquer son nom. Alors, un seul ou des lieux multiples ? Ben, si vous prenez le code d'alliance, on a l'impression que c'est des lieux multiples. Si vous prenez le code du Deutéronome, il y a un seul. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut suivre le code d'alliance ? Est-ce qu'il faut suivre le code deutéronomique ? Ben, on verra. Mais, en fait, ce que je voulais encore juste vous montrer avant, vous laisser patienter une semaine, donc ces deux passages, apparemment, ont été, en effet, rajoutés après coup. Donc, cet encadrement par rapport au lieu du culte, et puis à la fin, je ne vous ai pas précisé, à la fin, de nouveau, pas un dieu en argent, pas invoquer les noms d'autres dieux, donc ça se répond. Et puis, ce qui répond à la question du lieu, c'est après la question des fêtes. Donc là, il y a vraiment un encadrement. Mais en même temps, on voit que cet encadrement, en fait, a été inséré certainement d'une manière secondaire parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'introduction. L'introduction, vous les avez, en fait, vous l'avez au chapitre 21, au verset 1. Voici les règles ou les coutumes juridiques, les mishpatim, que tu leur exposeras. Donc, probablement, ce qu'on appelle le code d'alliance, cette collection de prescriptions, vous avez toutes sortes de choses, ça a commencé sans doute avec ce titre-là. Et ensuite, quand on l'a intégré dans son contexte narratif, on a donné un nouveau encadrement par rapport au culte de Yahvé, qui se trouve du coup lié au contexte narratif, parce que le premier commandement, tu ne te feras pas, vous ne vous ferez pas un dieu en argent ou en or, voilà, on va voir que ça va pas durer très longtemps et ça sera transgressé. Et ensuite, dans n'importe quel lieu où je veux qu'on m'invoque, bah ça va en effet poser une question théologique par rapport au lieu unique dont parle Deutéronome 12. La solution, ou disons la solution, une proposition de solution sera proposée donc la semaine prochaine. Mais on parlera aussi du veau d'or et du sanctuaire. Alors, bon après-midi.